de la société, parce que voilà, moi je trouve que c'est on fait de la danse hip-hop. Ouais, même on fait
et
du
donc,
hip-hop.
Du coup, je suis en train de mettre en place, c'est pas une révélation ce que je vais vous dire, mais c'est un nouveau projet qui est un projet de solo à deux, qui va faire état de la question de la transmission.
Principal de notre compagnie, c'est des spectacles engagés et au moins d'éveiller les consciences. Voilà.
Merci Fred. Et puis alors, il y a un vrai parti pris en tout cas.
Ouais. Un vrai positionnement.
Il y a quelques années encore, ça c'est ma réflexion, puisqu'on est dans une conversation aussi avec le hip-hop, de la scène notamment chorégraphique française. Il y a quelques années,
oui, très encore, bien. Tout à fait. Et pour citer un autre Frédéric, il y en a, il me semble que nous sommes contemporains.
Nous sommes une culture contemporaine, c'est vrai, une hip-hop, une culture contemporaine qui peut être aussi imprégnée par des...
Et de me mettre en difficulté, comme je l'ai toujours fait dans mon travail de création. Quoi.
Exactement. En fait, documenter autrement. Parce que déjà, en tant que chorégraphe, ton travail, ta création documente déjà. Elle documente sur le monde, sur les questions qu'on se pose, sur le monde, notre rapport au monde, à la société. Une autre façon de documenter aussi.
Moi j'aime bien l'expression qui dit il y a l'histoire qui appartient aux dominants et il y a les mémoires qui témoignent de certaines réalités qui ne sont pas véhiculées dans les médias principaux.
Ah, d'accord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast à la bonne heure, dédié à toutes celles et ceux ayant un lien de près ou de loin avec la culture hip-hop. Culture dans laquelle on épuise matière à créer, mais aussi à penser. Aujourd'hui, c'est donc le deuxième épisode autour de mon récit chorégraphique au sujet du passage de la rue à la scène de la danse hip-hop, et particulièrement lyonnaise, avec en toile de fond l'enjeu politique et culturel. C'est celui de l'époque, porté notamment par la marche pacifique. Oui, des combats de l'époque portés notamment par la marche pacifique de 83 contre le racisme pour l'égalité des droits, puis celle reconduite l'année suivante, Convergence 84 pour l'égalité. De la rue à la scène, conversation avec le hip-hop, c'est maintenant sur RVR, Radio Libre.
Un peu de silence s'il vous plaît. Je donne la parole à Camélia Jordana qui va nous faire un son. Donc elle a eu le courage de prendre la parole dans une grande émission de télé pour rappeler les morts dans les quartiers populaires, les morts noirs et arabes, et soutenir Assa Traoré. On lui donne la parole, elle va chanter. Merci de l'écouter attentivement.
We're gonna walk long time again.
Paris, le 2 juin 2020. L'auteur, compositrice, interprète, musicienne et actrice française, Camélia Jordana, chantait contre la violence policière au cœur de la manifestation massive à l'appel du collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré. Manifestation à la mémoire de ces deux victimes de part et d'autre de l'Atlantique, dont George Floyd et Adama Traoré. Elle reprendra symboliquement le chant du Black Panthers Party, Revolution has come, la révolution arrive, time to pick up the gun, il est temps de prendre les armes. À ses côtés, l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga prend la parole, celle que vous venez d'entendre. Il est important de poursuivre ce deuxième épisode avec cette bande-son qui a introduit également le premier épisode. Pourquoi ? Parce qu'elle est aussi la bande-son des mouvements politiques de l'histoire des marches de la colère que le mouvement hip-hop aux États-Unis comme en France a accompagné jusqu'à son orientation vers le théâtre. Si vous avez raté le premier épisode du 18 janvier dernier, celui-ci est disponible à l'écoute dans la rubrique « Nos émissions » sur RVR. Il y a 40 ans, le hip-hop va régler la respiration d'une partie de la jeunesse. Qu'elle soit de Lyon, Paris, Marseille, Roubaix ou de Toulouse. Une contre-culture qui existait à peine aux yeux des médias et pas davantage aux yeux des institutions. Un mouvement culturel qui puise sa source dans la culture des communautés afro et latino-américaines. Sur notre continent, les jeunes des quartiers populaires reçoivent 5 sur 5 le tempo du message outre-Atlantique. Alors, en s'appropriant cette culture, ils commencent par se réapproprier leur corps, leur histoire et réalité culturelle, trouvant une forme alternative à celle de la culture dominante et pour certains, celle traditionnelle de leurs parents. Créatifs et subversifs, les combats de l'époque passeront sur le terrain culturel. Et l'énergie vitale de ces jeunes ados relanceront les forces d'une volonté de vivre en respect, en réclamant le droit de vivre. Oui, il faut rappeler que le hip-hop sera, dès ses premières heures, une réaction vive au racisme, à la violence sociale et post-coloniale des années 80, où le corps sera le moyen de transfigurer les colères sourdes mais chargées d'espérance. Cette jeunesse accompagnera donc à sa façon et à son rythme une lutte sociale et politique, dont celle du mouvement de la marche pacifique de 1983. La marche pacifique de 1983 contre le racisme et pour l'égalité des droits a été renommée par les médias parisiens dont Libération, je cite, « la marche des beurs », ce que les organisateurs et organisatrices de la marche n'ont jamais revendiqué. Cette qualification médiatique de la marche lui donnera non seulement une forme séduisante et édulcorée, mais de plus l'associera à la seule immigration maghrébine et participera à sa culturalisation au détriment des revendications politiques qui l'animaient au départ. Bien que la majorité des victimes de crimes racistes étaient particulièrement ceux issus de la communauté maghrébine, les initiateurs de la marche, pour ne citer que Toumi Djaïdja, n'entendaient pas la qualifier de la sorte. Il fallait que cette marche touche tous les Français et Françaises, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit la couleur de leurs zébrures, et voulant avancer sur la question de l'égalité. La réappropriation d'un mot, la dépossession d'un tel mot tel que « beurre », dont il faut rappeler est un verlan parisien employé essentiellement par les jeunes de Saint-Denis issus de l'immigration maghrébine. Eh bien, c'est comme être dépossédé du sens même politique du mouvement de la marche par le pouvoir politique. En d'autres termes, la rendant inoffensive, docile. Plus tard, l'expression « beurre »,« beurette » prendra même une connotation sexuelle. Un terme essentialisant et sexualisant. Écoutons un extrait de la sociologue et anthropologue Nassira Guenif Souilama à l'occasion de la table ronde intitulée « Ouvrir la marche, 40 ans de lutte contre le racisme » qui s'est tenue au Centre Pompidou de Paris en 2023.
Donc il y a des artifices, c'est aussi ça que permettent les mots, ils permettent de détourner l'attention, de faire diversion. Alors aujourd'hui on dirait faire le buzz ou devenir viraux, mais ce mot-là, hein, le mot de beurre, toute cette sémantique autour du beurre et de la beurrette va être particulièrement puissant dans le raisonnement et dans la, aussi dans une forme de démoralisation, c'est-à-dire qu'à force de marteler ces mots-là, de les faire entendre, prétendre et de prétendre que c'est ça la quintessence de ce que ces descendants de migrants et de colonisés représentent en France, on finit par les priver de l'espace politique qu'ils étaient en train de constituer. Donc il y a une volonté délibérée de la part de l'Élysée, je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. Lorsque l'Élysée, Mitterrand, centralement, un jour il reçoit Toumi Djaja sous les ordres de la République, le lendemain il lance une stratégie pour désamorcer ce mouvement et pour le rendre, non seulement pour le marginaliser, mais pour d'une certaine manière aussi le décrédibiliser. Et effectivement, inventer cette espèce de récit, cette fiction de l'abritude, de ce monde particulièrement sympathique, avec tous ces jeunes basanés qui sont très branchés. Je rappelle que c'est le même vocabulaire, hein. Chez Bran, je sais pas, enfin, si vous allez voir le vocabulaire de l'époque, il y a une façon de, au fond, soit vous avez le rythme dans la peau et vous êtes beau et belle, il y a aussi cette dimension-là, hein. C'est cette façon d'être attractif qui va hypersexualiser les Arabes, les femmes arabes, mais aussi les hommes arabes, à les rendre en quelque sorte accessibles sur le marché sexuel, sur le marché matrimonial, parce que qui vont être les Français de demain si effectivement ces jeunes de la marche et tous ceux qu'ils représentent ne partiront plus, s'ils ont vocation à rester en France, mais ils vont faire des Français. Donc au secours, il va bien falloir qu'on comprenne si effectivement ces ventres qui vont donner naissance aux futures générations de Français sont capables d'être en adéquation, sont compatibles avec la rhétorique, d'ailleurs, qu'on entendra par la suite. Est-ce qu'ils sont compatibles avec la République? Est-ce qu'ils sont solubles dans la République? Est-ce qu'ils ont, ils partagent nos valeurs? Et donc, les femmes vont être particulièrement à la fois préemptées, mais aussi gagées. C'est-à-dire qu'elles sont prises en otage de cette rhétorique-là et elles doivent en répondre. Elles sont tenues comptables, plus que les autres, du fait qu'effectivement, il va bien y avoir moyen de domestiquer ces générations et de les rendre compatibles avec ce que la République veut continuer à être, tout en étant amnésique sur son passé colonial et sur la façon dont elle continue à gouverner les quartiers comme des colonies, en fait.
Elle en dit des choses, Nassira. Comme dira l'écrivaine et militante Salika Amara, également invitée à cette table ronde, je cite: on a cherché à asphyxier tous nos mouvements pour mettre en avant une association, créée juste après, à savoir SOS Racisme, le réduisant à un antiracisme moral, mettant ainsi de côté le racisme institutionnel, le racisme systémique. Et puis pour ma part, et pour la petite histoire, il faut savoir que SOS Racisme a emprunté cette expression à celle de l'association SOS Avenir Minguette, créée par des jeunes des Minguettes et dont Toumi Djaja était le président. Ouais. On peut comprendre ce sentiment de dépossession, celui d'un combat, de cette espérance trahie, pour emprunter le titre d'ailleurs du film documentaire de Yves Benita, dans lequel d'ailleurs j'apporte mon témoignage. Oui, de cette espérance trahie, de son instrumentalisation politique, invisibilisant aussi l'engagement des femmes dans ce mouvement. Vous pouvez, si seulement vous le souhaitez, découvrir sur YouTube l'intégralité du témoignage de ces militantes et engagées dans la marche. Les mots-clés: ouvrir la marche, 40 ans de lutte contre le racisme, 1983-2023. Dans cette même vidéo, vous pourrez aussi découvrir le témoignage de deux figures pionnières du hip-hop français, dont l'animateur ciné de l'émission hip-hop intitulée H.I.P. H.O.P. ainsi que du DJ Grandmaster Dynasty. Bah ouais, Paris a enfin compris qu'il fallait faire converger ces deux mouvements ayant émergé à la même époque. Cependant, il aurait été plus cohérent, entre guillemets, d'ouvrir le récit mixé de ces histoires, de ces mémoires, au-delà de la seule sphère parisienne, car évidemment, ces deux respectables acteurs du hip-hop ne peuvent pas prétendre témoigner sur tous les plans. La marche pacifique de 83 est en partie de Marseille, pour des raisons symboliques en lien d'une part à l'histoire de l'immigration et d'autre part parce que Marseille avait été le terrain de crimes racistes. Alors, et de ce fait, il aurait été judicieux d'inviter peut-être les figures du groupe légendaire de rap français et marseillais, dont IAM, les rappeurs Akhenaton, Shuriken, ainsi que le DJ Kéops. Une évidence, non? Et aussi d'autres figures pionnières correspondant à ce qui définit le hip-hop en tant qu'entité culturelle dont le graffiti et la danse. Inviter des danseuses et danseurs chorégraphes des premières heures pouvant aussi témoigner de l'orientation de la danse hip-hop vers le théâtre subventionné, de son enjeu artistique et politique en lien avec celle de la marche, mais aussi des rapports d'inégalité que vivent une majorité d'artistes racisés, ostracisés, discriminés aussi dans leur ville, où des acteurs culturels et artistiques blancs et blanches jouissent des faveurs de leur blanchité et donc de soutien politique et financier de leur commune. Que cela soit une réalité dans les grands centres urbains, périphériques, mais aussi rurales. Bref, l'organisation de ces tables rondes a fait le choix de réduire le champ des représentations et témoignages à deux hommes, respectables certes, mais deux hommes seulement. Dommage. Alors que pensent ces deux dinosaures du hip-hop, comme ils se présentent, de cette articulation aujourd'hui entre la marche et le hip-hop? On écoute une question posée à ce propos directement par le modérateur et journaliste Raphaël Yem.
Je voudrais terminer avec une question qui me travaille depuis qu'on m'a proposé de modérer cette discussion dans le cadre de cette programmation Ouvrir la Marche. Moi, j'avais 2 ans à l'époque de la marche, donc j'étais un bébé. Mais évidemment, je me suis documenté par la suite, parce que c'est notre histoire collective. Pourquoi est-ce que le hip-hop, le rap, cette culture et puis cette musique que j'aime tant, qui m'a tant porté et qui, quelque part, a fait de moi aussi ce que je suis aujourd'hui, et je pense que c'est pareil dans le public, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée comme la bande-son de cette marche?
Parce que c'est trop politique. Et nous, la politique, c'est la nation hip-hop. Voilà. On ne se mêle pas. Personne ne nous a aidés. On est autonome. On n'a jamais compté sur personne. Donc on continue comme ça. Donc il ne faut pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Tu vois. On peut le sentir dans nos cœurs, mais on n'est pas obligé de l'afficher.
Et toi, voilà. Sidney?
Je pense que la marche, c'est 40 ans qu'on fête aujourd'hui pour la marche de l'égalité. Elle touche le reflet de toutes les populations. Et les gens qui ont marché, c'est aussi bien, vous pouvez dire, des gens qui sont de la culture ou non, de la culture hip-hop, mais qui sont d'une culture aussi de musique maghrébine, de musique africaine. Donc c'est un mélange de tout cette musique qu'on va appeler de j'aime pas dire tiers-monde ou tiers... je veux dire de cette population, de la population française qu'on représente aujourd'hui, et qu'il fallait qu'il y ait toutes sortes de musiques, qu'il y ait de la musique hip-hop, qu'il y ait du raï, qu'il y ait de la musique africaine, du dombolo, voilà.
Maintenant ils disent musique urbaine, comme ça, ça met tout dans le même sac.
C'est fatigant.
Une sono mondiale, en tout cas.
Une sono mondiale. Pour Sidney, il n'y a pas qu'une seule bande-son qui a accompagné la marche, mais des bandes-sons, ce qui est compréhensible. Mais il ne répond pas à la question, sinon à côté. Quant à Dynasty, on ne se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas. Trop politique. Une réponse qui veut marquer le fait que beaucoup d'adeptes du mouvement hip-hop ne sont pas investis dans des luttes sociales sinon que par le cœur et ne veulent pas être associés par un quelconque parti politique. J'en comprends une partie. Mais je pense qu'ils se trompent. Combien d'artistes rappeurs et rappeuses ont soutenu des candidats politiques de gauche comme de droite? Ça s'appelle la liberté de l'individu qui agit à son nom propre. Il existe aussi des artistes hip-hop connus et plus anonymes qui luttent contre les injustices et inégalités sociales à travers certaines actions caritatives. Ouais, je pense que Dynasty ne devrait pas confondre le mouvement de la marche contre le racisme pour l'égalité des droits à celui de SOS Racisme, qui est une émanation de la gauche socialiste. Par conséquent, et comme son ami Sidney, ils bottent en touche. De telles réponses de leur part, on est en droit de se demander pourquoi ils sont là. Sinon que pour apparaître juste comme des archives vivantes du hip-hop des premières heures parisiennes. Deux hommes passionnés de musique, mais ne s'étant peut-être pas sentis concernés par cette histoire de la marche, sinon que de très loin. Oui, les absents ont bien manqué à cette table ronde. C'est comme ça qu'on étouffe aussi la parole des autres. D'un mouvement. Comme ce fut le cas d'ailleurs pour la marche de 83. Il faut se méfier à ne pas reproduire inconsciemment ou sciemment ce que l'on reproche aux politiques, au pouvoir. Être dans le sérail vous met forcément au défi de vous-même. C'est ça aussi la philosophie du hip-hop, non? Je me trompe. Enfin, lorsqu'une personne du public du Centre Pompidou pose la question à Sidney au sujet du passage d'une culture underground à celui du plateau de télé, celui-ci répond qu'il faut faire des concessions. Et à Raphaël Yem de reprendre des compromis. On écoute le dernier extrait de cette table ronde.
Ma question, enchantée. Ma question s'adresse plus à Sydney et c'est lié à l'émission du coup HIPHOP. Moi, je suis née en 83, donc je comprends que l'émission a été, vous avez commencé à ce moment-là, et je me demandais, comment je perçois le hip-hop à cette époque-là, c'est que c'était un mouvement un peu underground, et j'ai la curiosité de savoir si vous n'avez pas été considéré un peu comme un vendu entre guillemets à ce moment-là, le fait que vous
déployiez cette
émission.
Tu veux dire d'être diffusé sur TF1, voilà, une émission grande audience, très populaire. À l'époque, il n'y avait pas autant de chaînes en plus. Hein,
voilà, exactement. C'est deux questions en une, donc je profite. Et du coup, si oui, comment vous avez fait justement pour dépasser ça et rendre cette musique populaire au plus grand nombre? Et encore bravo pour ce que vous avez fait. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, ceux qui ont dit que c'était les vendus, c'était les jaloux. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents de votre situation quand ça va bien pour vous. Heureusement que j'ai eu cette opportunité grâce à Marie-France Brière, directrice des programmes à TF1, d'avoir cette opportunité,
grâce à toi surtout,
de faire une émission sur la culture hip-hop. On ne savait pas comment la faire ni quoi comment. On s'est débrouillé avec des briques et des brocs. Il n'y avait pas, en plus, d'argent. Bien sûr, on m'a dit il fait une émission pour gagner de l'argent. Non, j'ai toujours fait des choses par amour jusqu'à aujourd'hui de ce que j'aime faire. Je crois que j'ai cette chance. J'ai dit c'était une chance parce que c'est une chance qu'elle n'allait peut-être pas se reproduire. Et au moment où on m'a proposé cela, je ne savais pas comment faire. Après, la deuxième chose, c'est que même pour appeler l'émission Hip-Hop HIPHOP, c'était compliqué parce qu'il n'y avait que 3 chaînes de télé à cette époque.
Ah ouais.
Et que pour cela, TF1 agissait comme un mammouth en disant « c'est ça ou rien, c'est ça ou rien ». À chaque fois, on était compressé. Donc même les droits de l'émission, du mot HIPHOP, TF1 le voulait, j'ai appelé aux États-Unis. Enfin voilà, il y a une bataille qui fait que c'est facile. Les gens disent lui c'est un vendu, c'est facile. Mais c'est pas grave. Si on n'a pas pu faire exactement ce que je pouvais faire, mais on a fait le maximum de ce qu'on peut faire, quitte à se vendre, mais quitte à faire des concessions pour que ça passe, pour que le principal objectif, c'était que les gens découvre la culture hip-hop. Et pour ça, à la télévision, tu dois le savoir, Raphaël, faut toujours faire des concessions. C'est pas être vendu.
C'est voilà. Un compromis, c'est ça?
Compromis.
Oh, et juste pour moi, parce que je suis...
Concession. Vendre son âme. Compromis. Fera partie du dilemme dans lequel se trouveront beaucoup de jeunes artistes danseuses et danseurs chorégraphes hip-hop du monde du spectacle vivant en quête de légitimation et reconnaissance des institutions. Une reconnaissance qui passera par le fait de faire allégeance artistique au code majoritaire de la culture dominante. Bah ouais. Il a été très vite conçu de toutes pièces les fameux couples hip-hop contemporain, hip-hop baroque, hip-hop classique. Non pas parce qu'elles sont nées de véritables rencontres et de désirs de fusionner pour créer un métal rare, comme je le dis d'ailleurs dans mon livre « Hop Rock, histoire de danse, histoire d'une vie ». Il y a quelques années, pour qu'une création de danse dite « hip-hop » soit louable, il fallait sans cesse qu'elle se confronte à une œuvre classique ou contemporaine, genre Casse-Noisette. Très récemment, la création « Les Indes Galantes », dont a participé la chorégraphe Bintou Dembélé avec le ballet de l'Opéra Bastille de Paris, me paraît être aussi un exemple. Il faut voir cette adaptation chorégraphique réunissant des danseurs et danseuses de crump, de break et de voguing sur cette composition baroque intitulée « Les Sauvages » de Jean-Philippe Rameau. C'est une très grande qualité. Oui, c'est d'une très grande qualité. Fort du succès de ces créations, Bintou Dembélé dira « Aujourd'hui, on est en train de dire « On ne peut pas faire sans nous ». On est force de proposition, esthétique et artistique. Elle n'a pas entièrement tort, mais à quel prix? Toujours évaluée, en rapport ou en opposition, à un art savant. Dans d'autres cas de figure, il y a quelques années encore, si une majorité de chorégraphes hip-hop était poussée par la profession pour mettre en exergue la seule dimension performative et attractive des corps black et beurre à travers une succession de figures hip-hop, où l'intensité des applaudissements garantit le succès de la programmation, D'autres évoluaient en jogging Adidas sur du Mozart, en accordant au violon quelques tours de passe-passe, de jeux de jambes et d'acrobatie. Sortir ces sauvageons de leur archaïsme culturel pour enfin les civiliser ou exhiber leur exotisme, c'est au choix. Et puis, il y a ceux réhabilitant une vieille tradition américaine du divertissement. Le minstrel show, sinon blackface, visage noir. Pour celles et ceux ne connaissant pas ce phénomène culturel, pierre angulaire de la culture de masse américaine, il faut que je vous précise ce qu'est le blackface. Forme de spectacle comique née aux États-Unis au cours du 19e siècle, interprétée par des artistes blancs qui se noircissaient le visage, imitant les chants, la musique et danse des populations noires. Cette forme de spectacle a longtemps servi une propagande raciste visant à dévaloriser l'image des Noirs en caricaturant tant leur physique que leur accent tout en s'appropriant leur langage culturel. La loi ségrégationniste du sud des États-Unis intitulée Jim Crow était le nom d'ailleurs des personnages fabriqués du blackface. Plus tard, lorsque les Noirs étaient autorisés à faire de la scène, il fallait qu'ils respectent les conventions de ce spectacle blackface. C'est-à-dire se grimer le visage en noir en imitant les Blancs singeant les Noirs. La perversité lourde de sens. Entre parenthèses, nous avons aussi connu en France des comiques qui ont fait leur célébrité en caricaturant les Noirs, dont Michel Leeb. La célébrité d'ailleurs aussi française et d'origine guyanaise, j'ai nommé Henri Salvador, a dû céder à cette injonction raciste en se caricaturant lui-même pour gagner de la reconnaissance. Ce type de production héritée du blackface a été interdit aux États-Unis sous la pression du mouvement des droits civiques. Par conséquent, elle résiste encore au XXIe siècle en se distillant toujours à travers le monde de l'entertainment, de la culture, des productions de divertissement, que ce soit à travers nos écrans de télévision, du show business ou encore du spectacle vivant, dont certains spectacles dits hip-hop. On parlera alors de la dimension fun, poétique et burlesque du hip-hop. Oui, ce genre de spectacle est très prisé et fonctionne parce qu'il rassure aussi. Il montre aussi combien cette population noire et arabe en particulier est rassurante, définitivement installée dans l'enfance, ce qui donne aussi raison à un certain paternalisme. Ce genre de show, car c'est comme ça qu'il est présenté dans certains théâtres, permet d'une certaine façon aussi d'exprimer des besoins, des angoisses, en masquant des relations sociales et interraciales et identitaires tendues. Bref. Il faut avoir vu le film The Very Black Show réalisé par Spike Lee pour bien comprendre, pour bien prendre la mesure de la perversité du système de l'entertainment et les préjugés raciaux et sociaux qui véhiculent. Oui, le portrait que je brosse d'un monde que l'on pense a priori ouvert, celui de la culture, est bien loin d'être un monde idyllique et innocent. Je vous propose de faire une pause musicale avec Eric B. et Rakim et leur titre I ain't no joke. Autrement dit, je ne suis pas un plaisantin, un clown.
I ain't no joke. I used to let the mic smoke. Now I slam it when I'm done and make sure it's broke. When I'm gone, no one gets on. Cause I won't let nobody press up and mess up the scene I set. I like to stand in a crowd and watch the people wonder, damn. But think about it, then you understand. I'm just an addict, addicted to music. Maybe it's a habit. I gotta use it. Even if it's jazz or the quiet storm. I hook a beat up, convert it into hip hop form. Write a rhyme and graffiti in every show you see me in. Deep concentration, cause I'm no comedian. Jokers are wild, if you wanna be tame. I treat you like a child, then you're gonna be named. Another enemy, not even a friend of me. Cause you'll get fried in the end when you pretend to be competing. Cause I just put your mind on pause and I complete when you compare my rhyme with yours. I wake you up and as I stare in your face, you seem stunned. Remember me, the one you got your idea from. But soon you start to suffer. The tuna get rougher when you start to stutter. That's when you had enough of fighting it'll make you choke. You can't provoke, you can't cope. You should have broke because I ain't no joke. Joke. It's serious as cancer.
Who can keep the average dancer hyper as a heart attack? Nobody smiling, cause you're expressing the rhyme that I'm styling. This is what we all sit down and write. You can't make it, so you take it home, break it and bite. Use pieces and bits of all my hip-hop hits. Get the style down, packed in, it's time to switch. Put my tape on pause and add some more to yours. Then you figured you're ready for the neighborhood chores. The E-M-C-E-E, don't even try to be. When you come up to speak, don't even lie to me. You like to exaggerate, dream and imagine it. Then change the rhyme around, that could aggravate me. So when you see me come up, freeze, or you'll be one of those seven MCs. They think that I'm a new jack, but only if they knew that. They who think wrong, or they who can't do that style that I'm doing, they might ruin patterns and paragraphs based on you. And you're all BDJ, if anything he play sound familiar, I'll wait till E-Say play him. So I'ma have to diss who broke, you can get a smack for this. I ain't no joke. The microphone like a grudge, be a hold a record so the needle don't budge. I hold a conversation cause what I invent, I nominated my DJ the president. When I'm CI, I'll keep a freestyle going steadily, so pucker up and whistle my melody. But whatever you do, don't miss one, there'll be another rough rhyme after this one. Before you know it, you're following it, fiending, waiting for the punchline to get the meaning. Like before, the moral of my story I'm telling, nobody beats the art, so stop yelling, save it, put it in your pocket for later, cause I'm moving the crowd and be a rector fader. No interruptions till the mic is broke. When I'm gone, then you can joke, cause everything is real on a serious tip. Keep playing and I get furious quick, and I take you for a walk through hell. Freeze your dome, then watch your eyeballs swell. Guide you out of triple stage darkness. When it get dark again, then I'ma spark this microphone, cause the heat is on. You see smoke in the finish when the beat is gone. I'm no joke, no joke, no joke.
Vous êtes toujours sur RVR, Radio Libre, conversation avec le hip-hop, deuxième épisode du passage de la rue à la scène de la danse hip-hop.
Je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche, c'est qu'elle est partie de gens sans importance, nous sommes des gens sans importance, d'une douzaine de personnes qui ont dit non, cela ne peut plus durer. Ces meurtres de jeunes un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Et puisque les grandes organisations manifestement hésitent à se lancer dans une campagne d'envergure, eh bien nous, nous allons prendre la route comme d'autres avant nous l'ont prise, ces Noirs américains ou ces Indiens vus dans le film de Gandhi ou encore ces paysans du Larzac. Nous allons prendre la route pour essayer de rejoindre tous ceux qui, en France, refusent une France de l'apartheid. Et nous sommes sûrs que le 3 décembre, à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité.
Archive audio de 1983, le père Christian Delorme, co-initiateur de la marche contre le racisme pour l'égalité des droits. Inspiré du mouvement des droits civiques, dont celle du pasteur Martin Luther King, celui de Gandhi, ou encore du mouvement de désobéissance civile non violente des paysans du Larzac, comme il le cite, cette marche pacifique de 83 va impulser des démarches artistiques initiées par des acteurs culturels et militants des années 80 au Minguette. Et c'est pour cela que Marcel Notar Giacomo a créé en 1983 la compagnie Traction Avant et va imaginer le passage de la rue à la scène de la danse hip-hop à Vinicieux. 1983, ne l'oublions pas, nous sommes à l'ère de la gauche socialiste mitterrandienne et des années Jacques Lang, alors ministre de la Culture. François Mitterrand favorise les radios libres. C'est le temps aussi des grandes déclarations d'attention culturelle, de la politique culturelle, celle de la démocratisation de la culture, de la démocratie culturelle, la culture pour tous, le droit culturel. Il n'y a pas d'un côté la grande culture, disait Jacques Lang, la noble culture, et de l'autre, la culture aux mains sales, celle des jeunes, des méprisés. C'est l'appel au respect de toutes les cultures, de l'ouverture et soutien aux cultures mineures et minoritaires. Légitimation et reconnaissance de pratiques culturelles différentes. C'est l'idée aussi selon laquelle l'État peut transformer de façon significative la société en utilisant le levier des arts, fortifierait la démocratie, entretiendrait la citoyenneté et lutterait contre les inégalités sociales. Marcel Notar Giacomo avait bien saisi son époque. L'éruption à fleur de peau des smurfeurs qui braquaient en bas des tours. Ce sont les petits frères et petites sœurs des marcheuses et marcheurs. Et il est convaincu qu'il faut rattacher cette énergie vitale et créative à cet élan de la société civile. Il est convaincu que le mouvement hip-hop est autant une pulsion de vie qu'une pulsion politique du corps et qu'elle converge avec, dans le même sens que celle des marcheurs et marcheuses. Car il s'agit de la même jeunesse, de la même révolte, mais aussi des mêmes désirs de progrès social. Il propose donc au chorégraphe contemporain Pierre Deloche, oui je dis bien, contemporain, de mettre en scène 20 danseuses et danseurs de Vénitieux, pour la majorité de breakdance ou de smurf, tels étaient les termes à l'époque. Et ceci pour réaliser la création danse intitulée Cascadance. Le travail de ce spectacle débutera à la Maison des Fêtes et des Familles sur le plateau de la Jupe des Minguettes en 1984 et aboutira au Théâtre de Vénitieux en 1985. Cascadance, un titre qui résonne avec les saccades du break et de nos ruptures. Chose que Pierre lui-même aimait à travers sa propre recherche, c'est-à-dire bousculer sans cesse les codes de la danse contemporaine, devenus trop conventionnels, ayant perdu les promesses de révolution des avant-gardes. C'est pour cela aussi que Pierre se retrouvait à travers l'énergie du hip-hop, sa joie contestatrice et son pouvoir de provocation. Pour Marcel, le choix de Pierre Deloche, chorégraphe contemporain, était d'une part le fait que celui-ci avait quelques années auparavant séjourné à New York, à Harlem Spanish, et qu'il avait déjà rencontré des danseurs hip-hop au pied de son immeuble. D'autre part, Marcel était conscient de la connotation élitiste de la danse contemporaine. Pour lui, cette démarche devait faire écho à l'enjeu politique des marcheuses et marcheurs et aux ambitions politiques et culturelles de l'État. Il s'agit donc pour lui de créer une rencontre choc et symbolique entre deux mondes n'ayant pas du tout la même fonction sociale mais ayant la même volonté de se rencontrer sur scène au carrefour de la rue Break et du boulevard contemporain, d'échanger, de dialoguer sur un même pas d'égalité. Écoutons Marcel Notar Giacomo, fondateur de la compagnie Traction Avant de Vénitieux.
On a du mal à associer la banlieue et l'art, très souvent, et c'est quand même dommage, parce que l'art donne à connaître et à comprendre la vie des hommes aujourd'hui, un spectacle vivant, et pourquoi on ne donnerait pas à connaître, à mieux comprendre, par le frisson, le plaisir, l'émotion, ce que sont, ce que vivent des hommes et des femmes aujourd'hui ici. Et ceux qui sont un petit peu spécialisés en danse sont peut-être moins attentifs à ce qui émerge comme ça dans ces lieux qu'on appelle des banlieues et dans lesquels vraiment est en train de naître et d'émerger une aventure artistique à part entière et qui à mon avis sera considérable dans la décennie qui vient.
Il avait bien raison, tellement raison. Tellement considérable que, des décennies plus tard, les théâtres ne pourront plus se passer de la machine break, qui sera, dès les années 90, requalifiée par l'institution de « danse urbaine » et va aussi occuper une place privilégiée dans le volet culturel des dispositifs de la politique de la ville, visant à renforcer l'intégration des jeunes des banlieues dites difficiles. Quelle intégration ! Arrêtons-nous un instant pour ouvrir une parenthèse sur ce passage de la rue à la scène des années 90. À cette même époque, les banlieues font encore parler d'elles. Rodéo mécanique, rodéo médiatique saturent les écrans. Le gouvernement pense étouffer les tensions par l'intermédiaire d'actions sociales et culturelles et augmente le budget des politiques de la ville. Même les politiques reconnaissent le hip-hop comme étant la culture populaire de notre temps. L'intention est claire. Favoriser l'intégration par la reconnaissance artistique. Fin 90, deux danseurs chorégraphes issus de la banlieue lyonnaise et de la communauté maghrébine seront installés à la direction de Centre National Chorégraphique, Mourad Merzouki et Kader Atou. Mais enfin, de quelle intégration encore une fois ? De qui parle-t-on ? Toujours dans les années 90, des jeunes groupes de danseuses et danseurs hip-hop seront alors projetés par la MJC ou centre culturel de leur quartier au devant de la scène artistique et professionnelle, sans réellement être accompagnés par des professionnels. Pas de réel apprentissage. Qu'à cela tienne, ils entrent dans le marché du travail. Plus tard, même l'Opéra National de Lyon est dans le coup. Sous prétexte d'élargir son public et de participer à l'idéologie d'une démocratie culturelle. En 2003, l'Opéra National de Lyon, symbole de la culture savante et dominante, et bien avant l'Opéra Bastille de Paris, soit 16 ans plus tôt, ouvre ses portes pour accueillir en résidence un groupe de b-boys, de breakers réputés de Lyon, Pokémon Crew. Danseurs du défi, remportant plusieurs battles de très haut niveau, cette résidence durera 10 ans. C'est quand même pas mal, voire même incompréhensible. Je n'ai pas été convaincu du résultat qui, à mon souvenir, sur la scène de l'Opéra de Lyon, s'apparentait à un battle théâtralisé. Pas sûr que cela faisait l'objet d'une réelle création originale, mais le public d'abonnés de l'Opéra de Lyon en a pris plein les mirettes, à travers la succession de figures acrobatiques bien trempées dans le béton de la cité, exécutées par ces corps jeunes et athlétiques aux abdominaux saillants. Là, et de ce point de vue, on est en pleine démagogie politique et fantasme culturel. Surtout, ceci ricoche pour moi avec l'un des propos de Bintou Dembélé vis-à-vis de son expérience avec l'Opéra Bastille. Je cite, dit-elle, « Être dans cette maison-là, aujourd'hui, donc l'Opéra, ça me donne un pouvoir d'agir. » Là-dessus, et personnellement, je m'interroge. Pouvoir d'agir, sur quoi? Sur qui? Où se situent nos danses nègres marronnes dans ce cas-là? Ouais, je m'interroge. Ce sujet demanderait à être développé et partagé par d'autres témoignages et réflexions autres que la mienne. Peut-être pour un prochain épisode. En attendant, je ferme la parenthèse et poursuis mon récit des premières heures sur l'envol des danseurs hip-hop de Vinicieux sur la scène chorégraphique lyonnaise. Prenons encore un petit instant pour écouter le court témoignage des jeunes danseuses et danseurs entre deux séquences de répétition du spectacle Cascadance en 1985 à Vinicieux. Nous entendrons très rapidement Fatia Bouinoual, la regrettée Fatia Bouinoual, son frère Abmar Bouinoual, ainsi que moi-même, suivi d'une des seules et très courtes interviews du chorégraphe Pierre Deloche. On écoute.
Un défi, la danse plutôt que l'arme ou le poing. Venu des États-Unis, le Smurf s'est emparé de nos banlieues et à Vinicieux, on a songé à en faire un spectacle. Ce soir, la scène. Vous dansez comment et où en fait?
Dans la rue.
Dehors, dans les allées, chez moi, n'importe où.
Le Smurf, bon, ça c'est un de toi-même. Ah, ce que tu fais, c'est tout ce que, disons, c'est comme si tu... Si je danse avec un copain, hein, c'est comme si je parlais, mais en mouvement. Hein. C'est pas, pas bon en parole, c'est un message, quoi, c'est un message.
Quand je danse, c'est surtout pour oublier les soucis. Pour, je pense, pour être bien dans ma peau, pour me défouler.
Le rôle dans ce cas-là, pour moi, c'était de ne pas trahir l'essence du Smurf, qui est avant tout un art d'improvisation, si je peux dire, et puis un art et de vivacité, mais c'était en même temps essayer de l'amener ailleurs, construire à partir de là une chorégraphie, et poursuivre à travers ça ma propre recherche chorégraphique.
La danse plutôt que l'arme. Le poing. Communiquer. Transmettre un message. Bien être dans son corps. Danser partout. Art d'improvisation. L'emmener vers d'autres possibles, d'autres expériences. Construire sans trahir l'essence même de ce langage. Autant de mots et d'intentions dans cet enregistrement. En fait, de volonté. De volonté de créer. De dépassement. Dans un monde qui ne voulait pas de nous. qui ne voulait pas accoucher de cette jeunesse. En fait, de le défier. Pour reprendre les mots du réalisateur Jean-Pierre Thorne, à ce propos, et qu'il a bien voulu poser sur la préface de mon livre « Hop Rock », je le cite. « Parce que ce monde ne voulait pas de nous. Alors, nous leur avons montré ce que nous sommes capables de faire. Nous avons inventé des danses, des textes de rap, des sons, des fresques somptueuses qui ont redonné vie à leur ville, leur théâtre, les remplir, mélanger leur public d'initiés à celle d'une jeunesse enthousiaste et qui n'avait encore jamais mis les pieds dans les maisons de la danse. Mais nous sommes la danse. Nous sommes une histoire de danse dans une histoire de danse française. Vénitieux, Lyon. Oui, nous sommes une respiration profonde, un souffle vital, au confluent d'autres souffles, qu'ils soient de Vanvelin, Rieux-la-Pape, Mermoz, La Duchère, Saint-Priest, Bron. Une pulsion de vie, une pulsion politique du corps. Une lutte dans une lutte, un cercle dans un cercle. Nous sommes un hop, nous sommes un rock, nous sommes hop. Rock, un combat. Et c'est sur scène que nous allons porter notre voix. Et nous avons un message à vous transmettre. Cela ne fait que commencer. It's Just Begun de Jimmy Castor.
Gun, 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 gun
Ce mouvement, celui de la projection de la danse hip-hop sur la scène chorégraphique française, n'est pas une anecdote, mais bien un moment historique, et qui n'a pas été impulsé, ni a été le fait d'établissements emblématiques dédiés à la danse, que ce soit celui de la Maison de la Danse de Lyon ou encore du Théâtre Jean Villard de Suresnes à Paris, ou alors encore aussi des rencontres des cultures urbaines de la Villette. Pas plus que celui d'un chorégraphe hip-hop élu des institutions et qui a émergé dans les années 90 à Lyon. Non, mais bien d'hommes et de femmes, d'acteurs culturels et éducatifs, proches de la jeunesse des quartiers périphériques et populaires des années 80 à Vénissieux. Mais aussi de danseurs et de danseuses chorégraphes professionnels et extérieurs à la culture hip-hop. C'est cette histoire que je viens de vous raconter de manière singulière, certes, mais qui, par conséquent, a posé les fondements artistiques de la danse hip-hop sur le devant de la scène chorégraphique française et particulièrement lyonnaise. J'insiste, et c'est bien en forçant les portes des théâtres que cela a été possible. Les tractions avant de Vénissieux ont signé l'avant-garde de la danse hip-hop sur les scènes chorégraphiques lyonnaises et de son frottement à d'autres esthétiques. Elle signe aussi l'entrée d'une réalité sociale, culturelle, dans le monde de l'art et de la danse. Et c'est sur scène que nous allons porter notre voix et nous raconter plutôt que de se la raconter. Nous réapproprier le pouvoir de nous définir par nous-mêmes, une version de nous-mêmes, en opposition à ce que nous prêtaient les médias de l'époque. C'est-à-dire soit des jeunes voyous des minguettes ou encore celui d'être des jeunes danseuses et danseurs maghrébins de banlieue française. Ou bien encore, des drôles de zèbres, avec ce qu'il y a de plus suspect dans cette expression. Alors ouais, nous affirmerons nos zébrures, soit blancs rayés de noir, soit noirs rayés de blanc. Ces rayures qui ne sont pas le signe d'un enfermement, ni celles d'une cage, mais bien au contraire, nous en libèrent. Ouais, parce qu'elles brouillent les codes socioculturels, bousculent les certitudes, les pensées système. Nous sommes de cette racine rhizome, chère à Édouard Glissant. Racine allant à la rencontre d'une autre racine, nous désengageant d'aucune d'entre elles, et fabrique de l'identité relation à l'autre. Créolisée, métissée pour certains, hybride pour certaines, culture hip-hop ou sinon culture du zèbre. Une culture qui hérite, pour citer Elsa Dorlin, d'une forme de syncrétisme de l'autodéfense servile, qui dans un passé lointain a mêlé plusieurs traditions, techniques corporelles, chorégraphiques, mais aussi des rythmes, des philosophies, afin de créer un système d'autodéfense à même d'assurer des conditions de survie. Oui, culture du zèbre. J'étais autrefois réprimé par les esclavagistes et le code noir. Dès que je formais un cercle ou un pas de danse, m'engageais déjà dans le combat. Scintillement d'une Afrique mouvante, en dérive dans sa propre diversité et dans celle des autres. J'ai eu plusieurs noms selon ma circulation. Capoeira Angola du Brésil, Ladja ou Damier de la Martinique, Mani du Cuba ou encore le Moringue de la Réunion. Tous constituent mon phénomène de résistance culturelle et de sursaut de l'esprit à travers mon marronnage dans ce que vous appelez le nouveau monde. Mais je suis le monde. À la bonne heure se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment d'écoute sur RVR. Ce dernier épisode a été écrit, sinon accompagné en pensée, à notre cher compagnon de route Fatia Bounoual, qui a récemment quitté la Terre et ses bruits pour aller à la rencontre du corps des étoiles, celle d'avant la vie humaine. Rêver, mais travailler sans arrêt. C'est ce qu'elle conseillait toujours aux jeunes générations. Alors oui, Fatia, ça sera sans arrêt. Nous insisterons. On se quitte avec cette voix douce de Fatia, mais tenace, pionnière du passage de la rue à la scène de la danse hip-hop en région lyonnaise. Suivie de la rappeuse Rock Kazay et de son titre Chuck Berry. On se retrouve le mois prochain, et cette fois-ci avec une invitée, comédienne et metteuse en scène. Il s'agit de Françoise Cazil. Elle nous parlera de son actualité artistique et de son expérience avec de jeunes danseurs et danseuses hip-hop de la région. À très bientôt les zébrés.
Vous pouvez donner un conseil, vous qui faites partie d'une compagnie, donc professionnelle, à Myriam, à Saba et à tous ceux et toutes celles qui peuvent nous regarder.
Mais il faut seulement, je crois qu'il faut que vous travailliez et que petit à petit vous ne perdiez pas cette passion qui est en vous, que vous avez à 13 ans. Et c'est tout quoi, il faut travailler pendant, en fait,
sans arrêt.
Quoi. Voilà, sans arrêt.
Je t'aime,